Frères et sœurs, bonjour, bienvenue, je suis heureux de vous retrouver, puisque c'était déjà le cas l'année dernière, nous avions déjà eu la chance, le frère Serge et moi-même, eh bien, de pouvoir nous adresser à vous pour ces modestes conférences de carême. Permettez-moi de remercier le recteur, chanoine Michel Bruard, pour son accueil. Et puis permettez-moi de saluer plus personnellement chacun d'entre vous, mais également eh bien, les auditeurs d'RCF qui pourront entendre également ces petites conférences. Alors pour ma part, je vais simplement reprendre le titre annoncé de cette soirée et décliner ce titre en nous plongeant directement dans le bain de la liturgie, ou plus précisément dans le bain des prières liturgiques. Je vous rappelle donc le titre de notre rencontre, Le carême, un cadeau, vivre de son baptême à la lumière de l'écriture et de la liturgie. Alors le carême, ce serait donc un cadeau. Alors concrètement, ça va être l'objet de ma proposition ce soir, eh bien, quel est ce cadeau? Ou plutôt, en quoi est-ce que le temps du carême est pour nous un cadeau? Mais avant d'aller plus loin, avant d'ouvrir le cadeau, de déballer le carême, il nous faut nous poser une question importante. Qui offre le cadeau? Et à qui le cadeau est-il offert? Vous savez, quand on dit par exemple, ceci est le cadeau de Benoît, eh bien, ça a deux sens. Soit c'est le cadeau que Benoît a reçu ou va recevoir, ou soit c'est le cadeau que Benoît a offert ou va offrir. Alors, notre question, on peut la lire également selon ces deux sens, et elle s'entend donc de deux manières. Le temps du carême est un cadeau que Dieu me fait, nous fait, à nous les baptisés, mais aussi le temps du carême est un cadeau que nous, ou que je, fais à Dieu. Alors, pour cette première soirée, je vais simplement répondre à la première question. En quoi le temps du carême est un cadeau que Dieu nous fait? Et puis la semaine prochaine, si le cœur vous en dit, eh bien, vous pourrez entendre une ébauche de réponse à la deuxième question. Le temps du carême est un cadeau que nous, nous faisons à Dieu. Alors, pour répondre à ces questions, comme je l'ai annoncé, nous allons nous plonger dans les prières liturgiques, mais comme elles sont assez nombreuses, dans le temps de carême, je me suis limité aux préfaces eucharistiques. Vous savez, ce sont les prières qui commencent par « Vraiment, cela est juste et bon de te rendre gloire ». Voilà, elles sont adressées au Père. Et pour le carême, il y en a plusieurs. Il y a tout d'abord les cinq préfaces qui correspondent aux cinq dimanches de l'année A. Vous savez, celle des tentations du Christ, celle de l'évangile de la Transfiguration, une préface propre au troisième dimanche qui est celui de la Samaritaine, une préface qui fait quelques allusions à l'évangile du quatrième dimanche à l'aveugle-né, donc, et enfin la cinquième à celle de la résurrection de Lazare. Ça, c'est pour les préfaces du dimanche. Et puis, il y a aussi deux préfaces spécifiques, celle de la Passion. Mais ce n'est pas encore celle-ci que nous allons lire, mais les quatre préfaces du carême, qui sont indistinctes, c'est-à-dire qu'on peut les prendre en semaine ou à certains dimanches. Et donc c'est avec ces préfaces-là que nous allons voir comment est-ce que Dieu nous fait un cadeau par le carême. Et puis avant encore de me lancer, je vais faire deux petites remarques. Ces prières de l'Église sont des beaux textes et elles sont aussi un héritage que l'Église a reçu, pour ne pas dire un trésor. Alors, je sais que ça va plaire à l'abbé Bruard que je dise ça, mais je le répète, ces oraisons, ces prières, ces préfaces, eh bien, on doit les entendre. Alors, si vos prêtres dans les paroisses les enlèvent pour prendre autre chose, bah, dites-leur que c'est quand même un peu dommage, voilà, puisque j'ai encore entendu récemment que, eh bien, on ne les lisait pas tout le temps, voilà. Et puis, la deuxième remarque, c'est vrai, elles sont parfois difficiles à comprendre, ces préfaces. Alors, ça demande un double effort, un effort de foi et un effort intellectuel. L'effort de foi, c'est peut-être tout simplement de faire confiance à l'Église. Voilà. Si l'Église adresse ses prières, qui sont souvent très anciennes, certaines préfaces remontent littéralement, hein, sans changement, au 5e, 6e siècle, eh bien, c'est un beau trésor. Il faut faire confiance à l'Église. Voilà. Et puis, l'autre effort possible, eh bien, c'est quand même de réfléchir au sens de ces prières, et c'est précisément ce que nous allons faire maintenant. Alors donc, commençons en nous demandant en quoi le carême est un cadeau pour nous. Vous savez, quand on nous offre un cadeau, ben parfois nous sommes heureux, parfois un peu moins. Il y a des cadeaux qui plaisent et des cadeaux qui ne plaisent pas. Alors ici, nous sommes sûrs que le cadeau qui nous est donné durant le temps de carême est un cadeau qui nous convient. Peut-être nous plaît-il pas, ou en tout cas pas immédiatement ou pas à première vue. Mais puisque Dieu nous connaît et qu'il nous aime, puisqu'il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, ben partons d'emblée, si vous le voulez bien, avec cette confiance en nous disant que ce que Dieu nous apporte est bon pour nous et que c'est finalement un beau cadeau pour nous. Alors, je vous ai fait moi-même un petit cadeau, enfin c'est pas grand-chose, c'est une petite feuille, une demi-feuille, sur laquelle vous allez pouvoir trouver les quatre préfaces sur lesquelles je vais m'appuyer maintenant. Donc ce sont les quatre préfaces du carême. On peut les entendre, donc, comme je l'ai expliqué, soit en semaine ou soit certains dimanches. Nous allons les lire les unes après les autres et à chaque fois, et ce sera le cœur de mon propos, nous allons voir, d'après ces préfaces, les cadeaux, les dons, si vous voulez, que Dieu nous donne à l'occasion de ce temps du carême. Je commence donc avec la première préface. Après l'introduction habituelle, hein, vraiment il est juste et bon, on entre dans le cœur de la préface, qui est toujours adressée à Dieu le Père. Il est bon de te rendre gloire, car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié. De sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, et ça c'est l'introduction au Sanctus. Alors vous pouvez déjà remarquer qu'on parle là des chrétiens. Chaque année, tu accordes aux chrétiens. Je fais une petite remarque simplement pour l'instant, et puis on verra en quoi il y a une progression dans la dénomination de ces chrétiens. Et d'emblée, donc, on voit que Dieu accorde quelque chose. On a donc bien un don de Dieu, un cadeau de Dieu pour le carême, un don fait aux chrétiens. Et ce qui est donné, ce qui est accordé par le Seigneur, c'est de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié. La préparation à la fête de Pâques nous est accordée, c'est donc déjà un premier don. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que le carême lui-même, comme préparation, est accordé. C'est déjà un premier cadeau que le Seigneur nous fait. Et vous remarquerez que cette préparation, elle se fait dans la joie. On peut voir là un second don, second cadeau. Alors, la joie peut-elle apparaître comme quelque chose de paradoxal? En quoi le carême peut-il être joyeux? Eh bien, il est joyeux par avant-goût, par anticipation, parce que nous le savons, eh bien, de la même manière qu'un enfant attend un cadeau à Noël ou à son anniversaire, déjà des jours avant, eh bien, nous, dans la foi, nous attendons déjà la résurrection du Seigneur. Et nous savons que nous la fêterons. Nous savons que le Christ est ressuscité et vainqueur. C'est donc une joie anticipée qui nous est donnée là. Je continue la lecture de la préface. Tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié. Alors je vais m'arrêter un petit instant sur cette belle expression. Qu'est-ce qu'un cœur purifié? Déjà, vous remarquerez que c'est un passif, c'est le cœur qui est purifié. Et donc souvent, c'est le cas très généralement dans la Bible, quand on a des passifs, mais c'est aussi le cas dans la liturgie, souvent c'est que c'est Dieu qui agit. On ne le dit pas, mais c'est Dieu qui est l'agent c'est lui qui agit. Ainsi, le cœur purifié, comprenons qu'il est d'abord purifié par Dieu lui-même. Pour les oreilles d'un chrétien familier de la lecture des évangiles, un cœur purifié, un cœur pur, doit peut-être vous rappeler les béatitudes qu'on lit en Matthieu 25. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. C'est le verset 8 du chapitre 5 de Matthieu. On ne comprend pas toujours assez bien cette belle béatitude. Il faut comprendre la pureté ici, non pas forcément dans sa dimension morale. Un cœur pur, ce n'est pas un cœur qui n'a jamais péché. Ce n'est pas en tout cas le cœur d'une personne qui n'a jamais commis de péché. La pureté ici, pour essayer de la comprendre, on peut par analogie penser à la pureté d'un métal. Un lingot d'or qui est pur, c'est qu'il est sans alliage. Quand on dit que c'est de l'or pur, ça veut dire que tout ce qui le constitue est de l'or. Ainsi, pour un chrétien, avoir un cœur pur, c'est avoir un cœur qui est sans mélange, qui n'est pas altéré, corrompu par autre chose. Alors, par autre chose que quoi ? Que l'amour de Dieu et que, finalement, sa vie baptismale. C'est important. C'est important. Alors, nous nous préparons aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié par Dieu, c'est-à-dire que si nous voulons que cette joie soit complète, eh bien notre cœur, il doit être tout orienté, totalement, pleinement, vers le Seigneur et vers la résurrection, vers cette fête pascale qui s'approche, qui se tend vers nous. Et vous remarquerez que la préface, alors je ne l'ai pas dit au début, mais j'ai pris évidemment pour simplifier les préfaces dans leur traduction officielle francophone. Voilà. Il aurait été intéressant d'aller voir ce qu'on appelle l'editio typica, c'est-à-dire la version latine qui est à la source des traductions des différents pays dans les langues vernaculaires, dans les langues ordinaires. Mais bon, je m'en tiens à la version française, mais ici c'est assez bien traduit, puisqu'on se prépare aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié. C'est pas seulement avec de la joie, c'est pas seulement avec un petit ajout, un petit peu de sel de joie, mais on se prépare dans la joie. C'est-à-dire que la joie devient presque un site, un lieu. On baigne dedans, on baigne dans la joie, notre cœur purifié doit baigner dans la joie, comme notre vie doit baigner dans l'eau du baptême. C'est quelque chose d'important. Alors si on continue la préface, on voit qu'il nous est encore donné un peu plus loin quelque chose d'autre, en plus de cette aide à la préparation, de cette joie et de ce cœur purifié. Donc je continue. De sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, eh bien, ces chrétiens, qu'ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. Le fait d'être comblé, c'est encore un don, parce que c'est Dieu qui vient nous combler de sa grâce. La grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est l'action de Dieu. On peut même dire, ultimement, que la grâce de Dieu, c'est Dieu lui-même en tant qu'il se donne. Eh bien, ça encore, Dieu lui-même est le cadeau suprême, le cadeau par excellence de notre temps de carême. Il nous accorde sa grâce. Mais vous voyez qu'on précise à qui cette grâce est donnée. Au début, on nous parlait des chrétiens. Comprenons tous ceux qui sont baptisés dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Là, on va un petit peu plus loin avec une autre dénomination. La grâce, elle est donnée, elle est même réservée, comme un cadeau qui nous est vraiment destiné. Elle est réservée au Fils. Bon, comprenez, au Fils et aux filles, bien évidemment. Eh bien, là encore, pour une oreille familière de la liturgie, nous nous souvenons que nous sommes fils et filles de Dieu par le baptême, justement. Quand on dit chrétien, on pense à ceux qui sont baptisés. Quand on dit fils, on progresse déjà, on entre en relation avec Dieu. Il y a une relation filiale. Voilà, donc dans cette première préface, pour faire un petit résumé de déjà ce qui nous est annoncé durant ce temps comme cadeau, comme don, tout ce qui nous est accordé, tout ce qui nous est réservé et qui nous comble, c'est la préparation aux fêtes pascales, le carême lui-même, la joie, le cœur purifié et finalement la grâce de Dieu même son action, son amour, sa vie qui nous est donnée, puisque nous sommes ses enfants bien-aimés. Permettez-moi de citer, de temps en temps je le ferai pour que voilà, nous ayons quelques échos avec la Bible, même si le frère Serge creusera davantage l'aspect biblique. Romains, la lettre de Paul aux Romains au chapitre 8, au verset 14. En effet, je cite, « Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. » Plus nous nous laissons posséder par cette grâce de Dieu, et plus nous devenons fils, et plus nous sommes fils ou filles de Dieu, plus nous sommes capables d'accueillir la grâce de Dieu. C'est un cercle vertueux. Voilà. Et le carême nous est donné pour nous rendre de plus en plus fils et filles, et donc de plus en plus ouverts à la grâce de Dieu, et ainsi de suite. Nous continuons avec la préface 2. Je la lis. Enfin, j'en lis le cœur, parce que les introductions et les conclusions sont toujours à peu près les mêmes. Elle est toujours adressée à Dieu le Père. « Tu offres », bon, ben voilà, un verbe clair sur le don. « Tu offres à tes enfants », on reprend le terme que nous venons d'entendre, « enfant ».« Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. » On insiste, vous remarquez, sur la pureté du cœur. « Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. » Elle est très belle, cette préface. Elle est ancienne. Je crois que sur vos papiers ont été portés en gras la manière dont nous sommes nommés. Et donc si au début c'était les chrétiens qui étaient nommés, cette fois, comme à la fin de la préface précédente, ce sont les enfants. Alors, qu'est-ce qui nous est donné par Dieu selon cette deuxième préface de carême? Eh bien, c'est le temps qui nous est donné, tout d'abord. Le temps, un temps de grâce. On ne peut pas célébrer la fête de Pâques sans se préparer dans le temps. Alors, le temps, on pourrait en parler justement pendant longtemps. Alors ici, je ne fais qu'affleurer le sujet, mais notre vie chrétienne, elle s'incarne dans le temps, et de la même manière, notre carême doit s'incarner, doit prendre vraiment corps dans le temps. Il faut considérer le temps, la succession des jours, et puis leur progressive avancée. Alors, ce temps, eh bien, d'après la préface, est un cadeau offert par Dieu. Mais il n'est pas offert simplement comme ça, il est offert selon un objectif, dans le but, eh bien dans le but que nous retrouvions, enfin que les enfants de Dieu que nous sommes, retrouvent la pureté du cœur. Alors, si cette pureté du cœur avait été évoquée en lien avec la joie dans la première préface, là il est clairement indiqué qu'elle est à retrouver, cette pureté. Alors, c'est à la fois triste parce que ça veut dire que nous n'avons pas encore des cœurs purs, mais c'est à la fois heureux puisque nous allons, grâce au temps du carême, la retrouver. Vous remarquez aussi que on a employé ce mot « enfant » au pluriel, puisque nous sommes unis les uns aux autres, nous sommes donc frères puisque nous sommes enfants au pluriel de Dieu. Et que cela, comme je l'ai dit, doit résonner en nos oreilles comme le souvenir de notre baptême qui est présent. Le baptême, ce n'est pas qu'un événement quand nous étions petits ou adultes, c'est toute notre vie qui est marquée de ce baptême. Eh bien, en tant qu'enfant, nous sommes dépendants de Dieu. Un enfant, il a besoin de ses parents. Voilà, rappelons au moins nous ceci. Et puis, je continue encore sur cette préface. Tu veux que tes enfants se libèrent de leurs égoïsmes. Alors là, il nous est offert la libération, mais vous voyez que cette fois, nous sommes acteurs. C'est à nous de nous libérer, d'après la préface. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus compter que sur la grâce de Dieu. C'est aussi à nous de faire des efforts, si nous voulons, eh bien, être libres. Et là, de quoi devons-nous nous libérer? Ce sont de nos égoïsmes au pluriel. C'est-à-dire qu'ils sont sans doute de divers ordres. Ce thème de la libération, il est commun à tout le temps du carême. Nous le retrouvons dans les lectures, et notamment dans la lecture que nous entendrons aussi à la veillée pascale, avec le passage de la mer Rouge en Exode 14. Le peuple de Dieu est libéré de la servitude des Égyptiens, les 40 ans au désert. Tu veux donc que tes enfants, Seigneur, soient libérés de leurs égoïsmes. Et puis après, cette formule, bon, elle est beaucoup plus belle en latin, mais en français, je trouve que ça rend bien, si vous permettez l'expression. En travaillant à ce monde qui passe, on ne doit pas être déconnecté, pour parier vulgairement. Nous ne devons pas être déconnectés du monde, il faut y travailler. En travaillant à ce monde qui passe, il s'agit pour nous de nous attacher aux choses qui ne passent pas. Alors ça, les choses, qu'est-ce que c'est ? Alors, je pense que c'est une interprétation. Quand on parle des choses qui ne passent pas, en fait, son manière de traduire sont les réalités célestes ou eschatologiques, c'est-à-dire de la fin des temps. Alors, si vous avez l'occasion de le découvrir ou de le redécouvrir, avant de sortir de la cathédrale tout à l'heure, vous irez voir l'autel circulaire, la Rose de Saint-Jean. Mais j'espère qu'il est connu de tous. Il est dans une des chapelles ici. Et sur cet autel est gravé, c'est un autel circulaire qui doit être du 10e ou 11e siècle, il est gravé « Hoc signum prestat populis celestia regnia ». Ce n'est pas du patois du Haut-Doubs, je viens du Haut-Doubs, mais c'est du latin évidemment. « Par ce signe, et on parle de l'Eucharistie, par ce signe est révélé au peuple le règne céleste ». Eh bien, c'est peut-être tout simplement ça, quand la préface parle des choses qui ne passent pas, entendons le règne céleste. Voilà. J'avance, puisqu'il ne me reste plus que 2 minutes, mais c'est normal, parce que je ne vais pas dire grand-chose sur la troisième préface, car selon cette préface, Dieu ne nous donne rien. Voilà. Alors, vous pourrez la lire chez vous, puisque vous pourrez prendre les papiers. Simplement, il y a la mention de la miséricorde, qui est quand même un don de Dieu, mais elle n'est pas explicitement donnée d'après cette préface. Mais je l'ai quand même mise sur vos papiers, parce que la semaine prochaine, si vous revenez, on s'intéressera à cette préface, parce que c'est plutôt nous qui donnons à Dieu dans cette préface. Donc je passe à la dernière de nos préfaces, la quatrième. Je passe encore une fois à l'introduction. Elle est toujours adressée à Dieu le Père, car tu veux, voilà, on sait ce que Dieu veut, on révèle quelle est sa volonté. Tu veux, par notre jeûne et nos privations, là encore, on est rendu acteur. Nous avons quelque chose à faire durant ce temps de carême. On n'est pas simplement passif. Nous devons agir au moins par le jeûne et les privations. Tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin, sous-entendu, nous donner la récompense. Remarquez tout de suite que cette fois, le sujet, c'est plus les chrétiens, c'est plus tes enfants, c'est nous. On change de registre, on ne part plus de nous à la troisième personne, comme les chrétiens, les enfants, mais on parle de nous-mêmes à la première personne du pluriel, comme si la relation était devenue vraiment une vraie relation cette fois. Tu veux, par notre jeûne, nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force. Une répétition de cette première personne du pluriel. Alors on découvre quelle est la volonté de Dieu. C'est donc de nous donner 4 choses. La répression de nos penchants mauvais. Alors c'est là qu'on s'aperçoit qu'on croit en un Dieu qui est répressif. Tant mieux, parce que ce qui est réprimé, c'est les penchants mauvais. Comprenons les vices qui s'opposent aux vertus. C'est aussi une référence au péché originel. Qu'est-ce qui nous est encore donné selon cette préface par le Seigneur ? L'élévation de nos esprits. Alors là, dans l'oreille d'un liturgiste ou de quelqu'un qui est familier des prières de la liturgie, on entend « sursum corda ». Élevons notre cœur, haut les cœurs, l'élévation des esprits. Il nous est encore donné le don de la force. Eh bien, c'est un heureux don, puisque la force, on en a besoin durant le temps de carême, sans doute pour nous aider dans notre jeûne et dans nos privations. C'est une vertu cardinale, comme l'est encore la tempérance ou encore la prudence et la justice. Et puis enfin, selon cette préface, il nous est donné la récompense finale. Alors là encore, on n'a pas la définition. Je suis quand même allé voir le latin. cette récompense finale, c'est premia. Premia, c'est premium, mais au pluriel. Le premium, c'est la... Oui, c'est assez bien traduit, la récompense, le don. Alors, c'est un pluriel en latin. Ce sont les récompenses, comme si l'amour de Dieu et ses dons débordaient. Voilà, quand Dieu donne, il ne peut pas donner qu'une chose. On ne peut pas, en tout cas, définir ce qu'il donne d'une manière singulière, mais d'une manière plurielle. Voilà, un excès, une générosité de Dieu. Alors, je termine simplement avec une citation de Matthieu au chapitre 6. Nous avons entendu ce passage à la messe des cendres, ou à la célébration des cendres. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. » C'est un peu étonnant de considérer Dieu comme quelqu'un qui nous récompense, surtout pour nos bonnes actions. Or, il est clair que Dieu ne distribue pas des bons points, mais n'empêche qu'une récompense, ces premia, nous sont quand même promis. Alors, réjouissons-nous, car c'est une excellente nouvelle, parce que finalement, ces premia, cette récompense ultime, enfin, la récompense suprême, c'est d'abord le don de la vie de Dieu, sa vie éternelle, et pour nous qui cheminons au début de ce carême, la participation par toute notre vie à la joie de Pâques. Je termine simplement en faisant une petite transition plutôt qu'une conclusion, une transition pour la semaine prochaine. Puisque nous avons reçu tous ces cadeaux, donc, que je ne vais pas reciter à nouveau, eh bien, comme il se doit, nous devons faire au moins une chose, c'est remercier le Seigneur. Voilà, lui dire merci. Quand on reçoit un cadeau, c'est la moindre des choses, c'est de dire merci. Et puis, nous avons à nous préparer pour, à notre tour, eh bien, donner quelque chose au Seigneur. Voilà, sans faire de l'anthropologie, hein, on parle là du contre-don. C'est Marcel Mauss qui a développé ça. Quand on reçoit, on a toujours envie quand même de donner quelque chose. Voilà, pas forcément pour compenser, mais voilà, dans une réciprocité. Eh bien, nous verrons la semaine prochaine ce que le carême nous propose de donner à Dieu. Merci de votre attention. Je laisse la parole à mon cher frère Serge.
Chers frères et sœurs, tout d'abord, je remercie Monsieur le recteur, le chanoine Bruard, de me permettre de reprendre la parole cette année devant vous, et puis l'abbé Franck pour toutes les paroles qu'il nous a dit, qui nous a fait entrer dans les préfaces et qui nous permettent de nourrir davantage notre foi, notre contemplation durant la liturgie. Alors, frères et sœurs, comment profiter à plein de notre temps de carême pour revenir aux sources de notre foi et nourrir celle-ci avantageusement? En premier lieu, nous pouvons observer que le temps du carême est un temps liturgique. Mais qu'est-ce que la liturgie ? Ensuite, ce temps du carême est construit en 40 jours et 5 dimanches, avant les rameaux, la semaine sainte et Pâques. Mais que signifie cette construction? En quoi nous aide-t-elle à rencontrer le Christ? Enfin, si nous zoomons sur le premier dimanche, celui de la tentation de Jésus au désert, Que nous apprend-il de particulier ? L'esprit de la liturgie, la structure et la fonction du carême, le dimanche de la tentation, telles seront les trois étapes de mon propos aujourd'hui. La liturgie est constitutive de l'ADN de l'Église. D'ailleurs, Église vient du grec ecclésia, qui veut dire assemblée, assemblée liturgique. Et naturellement, cette assemblée liturgique se réunit dans un lieu qui exprimera assez rapidement, dans son architecture, ce qu'elle est. Par facilité de langage, on l'appellera bientôt une église. Cependant, nous le savons, l'église ne se limite pas à l'assemblée que nous formons, puisqu'elle est le corps du Christ. Elle déborde donc au ciel. Elle comprend la communion des saints. Ou plutôt, c'est nous qui, lorsque nous sommes rassemblés liturgiquement en Église, faisons partie de la communion des saints. Nous percevons donc qu'il y a trois dimensions à tenir ensemble pour comprendre ce qu'est la liturgie. Une dimension humaine et communautaire, animée et structurée par l'Esprit Saint, une dimension rituelle et symbolique qui s'enrichit par la sédimentation au cours des âges, et une dimension surnaturelle, puisqu'elle transcende le temps et fait participer dès maintenant à la communion des saints. Je voudrais détailler un peu plus ces trois dimensions, qui sont en fait trois intentions originaires qui se sont développées avec le temps. La première intention de la liturgie chrétienne, c'est de faire ce que Jésus nous a demandé de faire, c'est-à-dire perpétuer ses paroles et ses gestes par la célébration des sacrements. Nous en avons la trace dans les évangiles. Allez de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous ferez cela en mémoire de moi. À ceux à qui vous remettrez leurs péchés, ils leur seront remis. Mais aussi dans les témoignages des apôtres, vous imposerez les mains aux malades et ils s'en trouveront bien. Écrit Saint Jacques. Ne néglige pas le don de la grâce qui est en toi, qui te fut conféré par une intervention prophétique, accompagnée par l'imposition des mains, par le collège des anciens, rappelle Saint Paul à Timothée au sujet de son ordination. Ainsi, la liturgie est-elle la continuation de l'œuvre de Jésus ? Plus exactement, elle est l'action de Jésus vivant, qui agit aujourd'hui par nous, quand nous la célébrons. Jésus n'a-t-il d'ailleurs pas annoncé « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » ? Il est actuellement présent dans la célébration des sacrements. La liturgie chrétienne est d'abord l'œuvre du Christ, par l'action de l'Esprit Saint qui nous y fait participer pour la rendre visible. Dans la liturgie, c'est Jésus qui agit. La deuxième intention de la liturgie est de conserver et transmettre la mémoire des œuvres de Dieu constitutives de l'histoire du peuple d'Israël. Histoire sainte, accomplie ensuite par la vie de Jésus. La liturgie chrétienne, en ce sens, s'inscrit tout d'abord dans la continuité de la liturgie juive, celle qui, par la lecture de l'Ancien Testament et par le chant perpétuel des psaumes, fait mémoire de l'action et de l'enseignement de Dieu en Israël, lui présente ses souffrances et ses joies et lui rend grâce pour tous ses bienfaits. Par la lecture des Écritures et par le chant, le juif et le chrétien d'hier et d'aujourd'hui entrent dans l'histoire d'Israël et y sont assimilés. Ils font leur les larmes du peuple de Dieu et participent à son espérance. La liturgie est alors l'école indispensable de la vie spirituelle, de la relation de l'homme avec Dieu. Dans cet esprit, l'Église naissante a développé, en complément, la mémoire de la vie de Jésus. Cette mémoire s'est constituée par la rédaction des évangiles, lus ou récités au cours de la liturgie. Proclamation des évangiles et liturgie chrétienne sont en effet inséparables. Nous y trouvons le cycle des fêtes, Noël, Pâques, Pentecôte, sans oublier ce que nous faisons trop facilement aujourd'hui, que nombre d'événements de la vie de Jésus ont eu lieu à l'occasion de fêtes juives. Nous ne pouvons donc pas le comprendre, ni comprendre vraiment nos propres fêtes, si nous ignorons la liturgie de l'Ancien Testament. De ce fait, même si elle s'en distingue, après sa destruction, la liturgie chrétienne demeure toujours profondément enracinée dans la liturgie du Temple. Mais c'est normal, la première accomplit la seconde. En fait, il n'y a rien de plus conservateur que la liturgie, et heureusement, car par sa structure enracinée dans l'histoire sainte et la vie de Jésus, elle nous ramène sans cesse à redécouvrir toujours avec la même jeunesse la présence et le don de Dieu pour notre humanité et nous apprend à lui en rendre grâce. La liturgie se présente ainsi comme un terreau fertile dans lequel le germe de foi, ensemencé au baptême, peut par l'action de l'Esprit grandir et s'épanouir. La liturgie est une catéchèse perpétuelle qui nous fait entrer par la lecture et par le chant dans la communion du corps du Christ et participer à sa vie et à sa joie. La troisième intention de la liturgie, enfin, est d'être prophétique. Il ne s'agit pas de faire seulement mémoire du passé et de se laisser toucher par Jésus aujourd'hui. Il s'agit aussi, avec l'aide de l'Esprit-Saint, de dévoiler dans les rites qui sont célébrés les réalités du règne de Dieu qui vient. Voilà une fonction de la liturgie un peu oubliée aujourd'hui et qui pourtant laisse entrevoir d'immenses horizons à contempler et nourrit par là une extraordinaire espérance. Car l'espace et le temps liturgique représentent symboliquement le passage de ce monde au royaume des cieux, le pèlerinage qui, de cette vie, conduit à la Jérusalem céleste. C'est par exemple le sens même des processions. Les rites liturgiques sont la projection sur la terre des réalités célestes. Les ornements liturgiques veulent signifier la grandeur et la lumière de la gloire de Dieu, dont nous savons qu'elles sont inséparables de son amour et de sa vérité. L'encens représente nos prières qui montent vers Dieu. Il répand aussi la bonne odeur du Christ qui est là, présent. Rien n'est placé ou dit en tel lieu ou à tel moment, dans une liturgie, dans une église, qui ne contienne une signification prophétique du règne de Dieu. C'est pourquoi, architecturalement, une église n'est pas une salle de sport, mais une représentation sacramentelle du ciel sur la terre. De la même manière qu'un chrétien est baptisé, un prêtre ordonné, Une église est consacrée. Mais nous avons beaucoup perdu de cette compréhension à laquelle nos anciens étaient pourtant habitués. Nous pourrions la retrouver avec bonheur en nous mettant à l'école de nos frères orientaux, catholiques ou orthodoxes. Si j'ai évoqué devant vous cette triple nature de la liturgie, c'est parce que le temps du carême dont nous parlons s'inscrit en elle. Pour entrer dans le temps du carême et lui faire donner toute sa puissance, nous devons tenter de le comprendre selon les trois dimensions que je viens d'évoquer. Lorsque nous ouvrons le livre de la liturgie du carême, nous devons être conscients d'y trouver l'héritage de deux traditions qui sont en quelque sorte mises bout à bout et interpénétrées. La première tradition est celle du jeûne, qui permet de se préparer spirituellement et physiquement aux fêtes pascales. Le jeûne était une pratique très courante en Orient et dans le bassin méditerranéen. En Égypte, on jeûnait 4 fois par an, par simple hygiène corporelle. Mais pour les Juifs et les chrétiens, il s'agissait évidemment de se purifier afin de se préparer corps, âme, esprit, aux fêtes prochaines. Pour nourrir spirituellement ce jeûne, les chrétiens lisaient le livre de la Genèse et l'évangile de saint Matthieu. C'est la raison pour laquelle nous retrouvons au premier et deuxième dimanche de carême la Genèse en première lecture, le péché et la chute d'Adam et Ève, puis l'appel d'Abraham, et dans l'évangile selon saint Matthieu, les tentations de Jésus au désert et la transfiguration. Par le choix de ces lectures, l'Église a voulu encourager les chrétiens au jeûne, en justifiant celui-ci et en lui donnant une finalité. Nous jeûnons parce que, comme Adam et Ève, nous avons péché. Nous appartenons à une humanité qui a perdu le bonheur du paradis. Et nous faisons donc pénitence. Mais il ne s'agit pas de nous morfondre dans une culpabilité sans espérance, car le Seigneur a appelé Abraham et lui a fait la promesse que sa descendance, aussi nombreuse que les étoiles du ciel, hériterait d'une terre promise. Pour les Hébreux, il s'agissait de la terre d'Israël, mais pour nous, chrétiens, il s'agit du règne de Dieu. Les évangiles apportent au pénitent jeûneur, qu'est le chrétien, d'autres informations et encouragements. Jésus lui-même a jeûné au désert, et non pas seulement le jour, mais aussi la nuit, comme Moïse. Pour saint Matthieu, Jésus est le nouveau Moïse, et même plus grand que lui. Nous les retrouvons ensuite, tous les deux, Moïse et Jésus, avec Élie, sur la montagne de la Transfiguration. Ils forment ensemble 3 exemples de pratique du jeûne qui aboutit à la rencontre avec Dieu. La pénitence n'est pas pour la mort, elle est pour la vie, pour la rencontre avec Dieu. Telle est donc la première tradition du carême, jeûner comme Jésus, Moïse et Élie pour faire pénitence en raison de nos péchés, en vue de connaître Dieu et d'entrer dans son royaume. La seconde tradition du carême est celle de la préparation des catéchumènes à leur baptême célébré durant la vigile pascale. Ici, les lectures, qui sont celles des 3e, 4e et 5e dimanche de carême, fonctionnent ensemble. À partir de choix de textes tirés de l'Ancien Testament, et de la lecture continue de l'évangile de Saint Jean. Elle se présente comme un enseignement sur le Christ Jésus et sur le salut qu'il nous offre. Le troisième dimanche, en évoquant le rocher de Massa et Meriba, d'où sort l'eau vive, comme l'histoire de la Samaritaine à qui Jésus propose une eau qui étanche toute soif, présente Jésus comme rocher et source de vie éternelle. Le quatrième dimanche, où sont évoquées l'onction de David par Samuel et la guérison de l'aveugle-né, nous présente cette fois-ci Jésus comme le Christ sauveur, Messie de Dieu, qui vient illuminer les aveugles que nous sommes devenus depuis la chute d'Adam. Le cinquième dimanche, quant à lui, avec l'impressionnante vision d'Ézéchiel des ossements desséchés qui redeviennent des corps vivants et la résurrection de Lazare, annonce la résurrection de Jésus et la promesse de la nôtre par la puissance de son Esprit-Saint. Après ces trois dimanches, les catéchumènes ont donc eu une présentation de Jésus qui comble le besoin de vie de l'homme, qui pardonne ses péchés et lui rend une âme pure, un regard clair en vue d'une vie éternelle par-delà la mort. Il s'agit d'une merveilleuse catéchèse sur Jésus et sur l'homme. Si l'on met donc les deux traditions du carême bout à bout, comme la liturgie nous le propose aujourd'hui, nous avons d'abord la prise de conscience de l'état dans lequel se trouve notre humanité, qui est un état déchu, mais nous avons aussitôt l'annonce d'une possible connaissance de Dieu et la promesse d'un retour dans son royaume. Justement, c'est ce que Jésus vient réaliser ensuite. Il vient répondre à cette espérance, pardonner les péchés, guérir et ouvrir par-delà la mort l'accès à la vie éternelle. Ce dernier acte est celui de la Semaine Sainte et des trois jours saints de Pâques, par lesquels les catéchumènes et tous les chrétiens avec eux et avec Jésus, par lui et en lui, passent de la mort à la vie et de la terre au ciel. Le temps pascal développe ensuite les effets de la résurrection. Ainsi, le temps du carême nous aura fait reparcourir l'histoire du salut, création et chute de l'homme, illumination sur la montagne et don de la loi, venue de Jésus, Messie Sauveur, qui vient réouvrir à l'homme pécheur, pardonné, la voie du ciel. Et en même temps, nous avons aussi un résumé de l'histoire de Jésus. Les tentations au désert arrivent juste après son baptême. La transfiguration, comme la rencontre avec la Samaritaine et l'aveugle-né, résume sa prédication itinérante. L'enseignement qu'il a dispensé, les pardons et les guérisons qu'il a accordés. Avec la résurrection de Lazare, nous entrons déjà dans les tensions qui vont conduire Jésus à sa passion et finalement à sa résurrection. En définitive, le temps du carême est une prédication de l'histoire du salut et une annonce de Jésus-Christ, une formation initiale ou une révision catéchistique en 40 jours. C'est la présentation rapide de qui est Jésus et de qui nous sommes, de ce qu'il a fait pour nous et de ce que nous lui devons. Mais surtout, si l'on tient compte de ce que j'ai dit de la liturgie auparavant, le fait même de connaître et de méditer le cycle du carême nous y fait participer. Nous entrons nous-mêmes ainsi dans l'histoire du salut et dans la vie de Jésus. Et plus encore, le fait même de célébrer la liturgie du carême montre que Jésus assume l'histoire humaine, toute histoire humaine, y compris la nôtre, avec ses drames et ses gloires, pour en faire une histoire sainte qui aboutit à la résurrection et à la sanctification de l'homme, de tout homme, s'il le veut bien. Ayant exposé le cadre général, je voudrais m'arrêter maintenant, pour terminer, sur l'évangile de ce premier dimanche de carême, celui des tentations de Jésus au désert. Il nous reste peu de temps. Lorsqu'on lit un texte biblique, il faut toujours lire ce qui s'est passé avant et après. Et si jamais dans la liturgie, ce texte est malheureusement morcelé, découpé, il faut toujours le relire dans son intégralité. C'est salutaire. Ainsi donc, avant que Jésus ne soit tenté par le Satan, il faut revenir à son baptême par Jean dans le Jourdain, où il a été consacré par Dieu, Messie, roi et prêtre, pour accomplir la rédemption de l'homme. Lorsque l'Esprit-Saint pousse Jésus au désert, c'est pour accomplir cette mission. Descendre jusqu'au cœur de l'homme, à la racine de la fragilité qui se trouve en lui et qui l'expose à la tentation, au péché et finalement à la mort. En résistant aux tentations, Jésus va guérir à la racine cette fragilité et prouver que l'homme est libre et qu'il a la capacité de revenir au paradis duquel il était déchu. Il y a un jeu de miroir dans l'évangile. L'homme était chassé par les anges du jardin du paradis pour se retrouver dans ce monde, comme dans un désert. Et Jésus, lui, qui part du désert, après avoir surmonté les tentations, finit par y être servi par les anges. Le désert s'est transformé en paradis. L'épreuve de Jésus commence par un jeûne de 40 jours et 40 nuits. Ce nombre de 40 se retrouve dans l'Ancien Testament. Il renvoie aux 40 ans passés dans le désert, au temps d'épreuves, avant de pouvoir recevoir la loi et entrer en terre promise. Il renvoie aussi aux 40 jours et 40 nuits passés par Moïse sur la montagne pour y recevoir cette même loi, qui fut aussi pour lui connaissance intime de Dieu. Mais le nombre 40 se retrouve encore dans le Nouveau Testament. Il s'agit des 40 jours qui séparent la résurrection de l'ascension. Comme si le temps des apparitions était aussi un temps d'épreuve, de purification. Pensez à saint Thomas, avant de pouvoir recevoir l'Esprit-Saint. Plus encore, d'après la loi de Moïse, il y avait 40 jours de purification à observer avant de pouvoir présenter un garçon premier-né au temple. Jésus est le premier-né d'entre les morts, qui, entouré par les anges, après avoir vaincu la mort et les puissances infernales, fait son entrée royale dans les cieux, le paradis est ouvert. Voyez comment, par le nombre 40, nous faisons le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, la liturgie actuelle du carême et les réalités voilées du règne de Dieu. En réalité, tout s'imbrique, comme dans un jeu de poupées russes. Mais venons-en rapidement aux tentations par elles-mêmes. Pour commencer, le Satan dit à Jésus : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Le diable, comme à son habitude, attaque de manière insidieuse et présente le péché comme un bien. Si tu es Fils de Dieu, depuis la Galilée jusqu'à sa crucifixion, Jésus sera mis en demeure d'apporter les preuves de sa divinité, de faire des miracles. Et c'est encore vrai aujourd'hui pour son Église. De quel droit cette institution se prétend-elle divine et humaine? Quelles preuves peut-elle apporter? Le Satan propose une solution. Transformer les pierres en pain, c'est-à-dire abolir la souffrance qui est celle de Jésus comme la nôtre, en l'anesthésiant au moyen d'une nourriture purement terrestre. N'est-ce pas en effet ce qu'on oppose à l'Église quand elle prêche? Pourquoi votre Dieu permet-il le mal et la souffrance? Alors, nous sommes tentés d'étouffer la question en multipliant les actes de charité, y compris sans référence chrétienne, au risque de transformer l'Église en ONG. Mais justement, c'est ce que Jésus va refuser de faire. Pourtant lui-même, dans d'autres circonstances, a multiplié du pain et du poisson pour rassasier une foule affamée. Et il s'est fait lui-même pain inépuisable, de vie éternelle dans l'Eucharistie. Mais Jésus a toujours fait ces actes-là dans une prière adressée à son Père, dans l'espérance et la foi que celui-ci montrerait son amour. Jamais Jésus n'a fait de miracle par lui-même. Ainsi, le remède radical à la souffrance ne se trouve-t-il pas uniquement dans les solutions terrestres, mais aussi et d'abord dans la grâce de Dieu? L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'action charitable de l'Église trouve sa source dans sa foi en Dieu seul et dans sa prière. Alors que la première tentation est externe à la foi, la seconde, plus perverse, lui est interne. Elle la gangrène comme un cancer. En effet, le Satan conduit Jésus dans le temple et il prend prétexte de l'Écriture. Il se comporte en exégète et en théologien. « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, etc. » C'est la caractéristique de l'Antéchrist que de se servir de la parole de Dieu pour la pervertir. En fait, c'est très courant. Nous pouvons très facilement faire dire à l'Écriture ce qu'il nous plaît, et elle finit par nous renvoyer à notre propre image. Elle ne reflète plus le visage de Dieu. Notre exégèse peut étouffer la voix de Dieu, et nous finissons par fabriquer une idole. En la circonstance, Jésus n'appelle pas les anges et ne se jette pas du haut du temple. Il ne bouge pas. Il ne provoque pas son Père pour l'obliger à réagir. Il est au contraire dans une attitude de veille et de foi. C'est de Dieu seul que vient le salut, quand et de la manière qu'il veut. Pensons ici à l'attitude de Jésus sur la croix, tout simplement. Ainsi doit se faire la lecture des Écritures dans une attitude de veille et de foi à la lumière de la croix et de la résurrection de Jésus. Enfin, la dernière tentation a lieu sur une haute montagne pour y contempler tous les royaumes de la terre. Le Satan met Jésus devant une contradiction apparente. Ne doit-il pas être le Fils de Dieu, celui à qui doit être remis le sceptre sur toutes les nations? Nous fêtons bien le Christ roi. Cependant, dans l'Évangile, nous voyons au contraire un Jésus qui fuit toute prétention politique terrestre, jusqu'à se faire broyer par les pouvoirs en place. Mais alors, qu'apporte Jésus dans le monde ? Et quelle est sa vraie royauté, s'il ne peut rien apporter d'autre qu'une faiblesse apparente ? C'est dans sa résurrection que se trouve la réponse. Jésus dévoile le visage de Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui a donné son Fils par amour et qui l'a ressuscité, ouvrant à tout homme un nouveau chemin de liberté, de réconciliation et de vie. Et c'est dans cette vie nouvelle que se trouve la vraie royauté de Jésus, celle de l'amour. C'est pourquoi Jésus répond : C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. Car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, et tel est le vrai culte de Dieu, celui que Jésus a accompli pour nous. Chers frères et sœurs, le carême est un temps liturgique dans lequel nous faisons mémoire des actions de Dieu dans l'histoire et de Jésus, notre Sauveur. Plus encore, en nous réunissant ici, à cette occasion, dans la cathédrale, pour écouter la parole de Dieu dans la méditation des Écritures, nous sommes agrégés à son corps. Jésus est là, au milieu de nous, et sans nous en rendre compte, nous le manifestons au monde. Enfin, nous contemplons déjà, à travers ces mystères, quelque chose du règne de Dieu, dont nous voyons bien qu'il agit déjà maintenant par son esprit jusque dans nos cœurs. Tel est le cadeau de Dieu.
Nous remercions nos deux conférenciers, M. l'abbé Franck Ruffio et le Père Serge, qui nous ont montré admirablement combien la nourriture, combien la liturgie peut nourrir notre foi. L'esprit de la liturgie, il suffit simplement de la laisser parler à notre cœur. Merci d'avoir laissé la liturgie nous parler en notre cœur pour ce temps de carême, et nous voyons les profondeurs même de la liturgie dans lesquelles vous nous avez conduits l'un et l'autre, chacun à votre manière. Merci beaucoup. Alors, dimanche prochain, nous aurons la suite et nous attendons dimanche prochain. Je voulais simplement rappeler que ces conférences de carême seront redonnées sur RCF. Elles ont été enregistrées et RCF nous les redonnera. À tous et à toutes, maintenant, nous entrons dans le temps de la liturgie des vêpres que nous allons maintenant chanter. Notre organiste va nous préparer en nous rejoignant l'hymne Attende Domine, qui est l'hymne par excellence du carême, et ensuite nous entrerons dans le temps liturgique des vêpres.